judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Rebonjour Rav Wolf, je suis très heureux que vous ayez accepté de revenir nous parler donc de ce problème qui va se poser très bientôt, puisque dans peu de temps, paraît-il, on aura sur les supermarchés et dans les restaurants de la viande dite de synthèse. Alors, vous disiez tout à l'heure, on utilise des embryons fraîchement fécondés. Alors, j'ai une question à vous poser. Au départ de cette viande de synthèse, on utilisait donc des cellules souches d'une bête qu'on laissait vivre. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, et vous allez me le confirmer, on n'a pas le droit de consommer quelque chose, une part d'une bête qui est encore vivante. Il aurait fallu la tuer. Et c'est pourquoi on est arrivé à cette solution d'ovules fraîchement fécondés, qu'on appelle le zygote dans le terme médical, où dans ce cas-là, on n'a pas affaire vraiment à de la viande. Et donc, on peut faire grandir ces cellules. Voilà, je vous laisse la parole.
Alors, bonjour d'abord aux auditeurs, bonjour aux Sylvain Toussaint. Effectivement, comme on l'a dit dans la dernière émission, lorsqu'on a pris une cellule donc d'une bête vivante, on a le problème de minachai, c'est-à-dire que ce n'est pas everminachai, ce n'est pas l'interdiction de prendre un membre d'une bête vivante, qui est donc l'interdiction noachide, puisqu'il faut pour ça prendre de la chair avec des os et du muscle. Donc, on n'est pas dans cette configuration-là, on est juste dans minachai, on prend quelque chose de vivant. Mais ce que le rabbin disait, cela reste de la viande, et donc si on a besoin pour de la viande d'abattre rituellement, et bien il faudra abattre rituellement, on apporte donc cette gemara dans Minachot, mais également on se pose la question donc du sérum sur lequel va s'agrandir cette viande, est-ce que ça s'appelle du sang ou pas, et il rapporte que Gemara dans Koulin, Pesahin Amod Bet, dans lequel il dit c'est uniquement le sang, seulement s'il est rouge. Or, dans le sérum, il sera blanc, et donc Rashi dit si c'est blanc, c'est plus du sang. Donc, c'est un peu la solution qu'on a posée sur le sérum, mais sur la cellule elle-même. Il tranche comme quoi elle doit être d'origine d'une bête cachère abattue rituellement. Or, dans la solution nouvelle donc de cette start-up israélienne qui fait des membres à partir de zygotes qui n'ont pas été donc intégrés encore dans l'utérus, mais qui sont encore flottants, qui ne sont pas encore accrochés sur la paroi utérine, et ben ces zygotes-là, effectivement, seront considérés dans la halakha comme pircha ba'alma, comme un détritus, et donc n'ont pas de statut de viande. Et c'est sur ça que s'est basé le Rav Lov pour dire, ben là, on est bon, on n'a plus besoin d'avoir une bête abattue au préalable, et on pourra donc être beaucoup plus beaucoup plus efficace parce qu'on aura besoin de moins de surveillance puisqu'on aura la possibilité d'avoir une matière première assez facile à extraire et aussi facile à développer. Donc pourquoi prendre de quelque chose qui est compliqué et cher, et on pourrait être beaucoup plus confiant dans le développement de ce produit-là, à part ça qu'on n'aura plus besoin de faire de shkita et que peut-être aussi, dans des lendemains, on pourra permettre plus. Pour le moment, il a été très, très frileux au niveau de viande et de lait, en disant que ça ressemble trop à la viande. Mais lorsque ce sera une pratique commune. Vous savez que le Schreiner dit, lorsqu'on a du lait d'amande, il faut mettre des amandes dans le lait pour qu'on puisse reconnaître lorsqu'on va le manger avec de la viande. Mais alors, la société a effectivement beaucoup changé, puisque Paul Bocuse, quand il était à Jérusalem pour les 2000 ans de Jérusalem, avait fait des recettes avec du lait de coco. Et lorsqu'il était revenu à Lyon, il avait présenté ces plats à ses confrères qui n'ont pas reconnu que c'était sans lait de vache. Mm-hmm. Donc, au niveau gustatif, on arrive aujourd'hui à des merveilles. Donc, la chéla du Maritain, ça a l'air comme du lait. C'est pas quelque chose qui reste à toujours. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, on va dire, oui, dans notre société, on ne consomme pas encore beaucoup de viande avec du vrai lait, de la viande artificielle. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec un steak avec de la feta de soja, d'origine végétale. Oui. On a de temps en temps des plaintes, donc je ne serai pas encore entièrement dans la société, puisque nous avons un plat qui est sous notre surveillance, qui est servi sur KLM, Air France, Alitalia et Etihad, dans lequel il y a du tofu parvé, du tofu qui est de riz, et tout de même on a des plaintes de temps en temps de personnes qui disent comment est-ce que vous pouvez faire la viande et du fromage. Donc ça veut dire que on a besoin d'un certain temps, les gens ont besoin de s'habituer, mais en tout cas au niveau de Shkuta, il a tranché de manière absolument stricte, comme quoi il n'y a pas besoin de Shkuta.
Oui,
et comme on disait la dernière fois, qui est extraordinaire, c'est qu'on est sur un produit qu'on a connu, c'est un produit existant, puisque on nous parle de d'urine d'âne dans la Gemara, on nous parle de transpiration de mouton, on nous parle de toutes sortes de sécrétions dont du temps de la Gemara, on savait qu'elles avaient certaines propriétés. On ne connaissait pas toutes les propriétés, on n'avait pas tout analysé, il n'y avait pas encore donc une connaissance aussi large qu'on a aujourd'hui sur ces sous-produits, mais en tous les cas, ils savaient qu'il y avait certains bienfaits qui provenaient de ces produits-là.
Alors, est-ce que on peut dire, on peut déclarer que cette viande de laboratoire, de synthèse, enfin, comme vous voudrez, est un produit parvé, strictement parvé?
Non, on ne peut pas dire cette chose-là. On peut dire qu'il est pas considéré comme de la viande, et donc il est neutre, mais lui conférer le statut de parvé, ça veut dire que c'est pour sûr qu'on peut le mélanger avec du lait. Or, dans sa deuxième partie de son responsable, il dit non, on ne peut pas le mélanger parce qu'il y a maritain, il y a etc., etc. Donc, il est parvé dans l'ustensile, donc on pourra le manger dans une assiette qui n'est pas forcément de viande, mais pour le moment, on ne pourra pas le mélanger avec du lait.
D'accord, ok. Parce que, justement, en lisant un peu les informations du Rav Lau, j'avais compris le contraire, mais j'ai sûrement mal compris. Voilà. Et c'est pourquoi je
vous pose la question. Non, vous n'avez pas compris le contraire, c'est pas ça. C'est une question de définition, de dire... pour vous, parvé, ça veut dire que c'est ni viande ni lait, alors c'est parvé. Mais si on dit, est-ce qu'on peut le mettre avec, puisque le parvé, on peut le mettre avec du lait, pour le moment, il dit non. Vous savez, en Hollande, ils sont les number one, les numéro un de la fabrication, ils ont des usines dans lesquelles ils vont avoir des, je ne sais pas comment ça s'appelle, où on développe donc des champignons.
Oui.
Donc et donc qui sont les plus grands fabricants de champignons au monde. Je parle par tête humaine. Et en Israël, on est les plus grands consommateurs de champignons. Et un jour, j'ai dit à un directeur d'usine, vous savez pourquoi ? Ben, c'est très simple, parce que les champignons, c'est un produit neutre. Donc nous, on a l'habitude, dans tout produit, de le consommer soit avec de la viande, soit avec du fromage. Là, on peut le consommer soit les deux, on peut le consommer le matin avec au petit déjeuner avec une omelette dans laquelle on va mettre du fromage et des champignons. Et à midi, on pourra faire un ragoût avec du champignon. Et le soir, on pourra faire une pizza avec des champignons. Donc, on pourra mettre des champignons à toutes les sauces.
Oui.
Et donc, cette viande, un jour, je pense qu'on pourra la mettre à toutes les sauces. Pour le moment, il émet certaines restrictions.
Alors, j'ai lu aussi, mais vous me rectifiez parce que je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais j'ai lu aussi que ce steak, on va dire, de steak de synthèse, suivant la façon dont il est emballé, et s'il a l'aspect de la viande, on est obligé de le considérer non plus comme neutre, mais comme de la viande. Alors que s'il était tout seul, il restait neutre. Est-ce que j'ai compris quelque chose à ça ?
C'est peut-être une manière de définir les choses, puisqu'on parle d'apparence, puisque intrinsèquement, il n'est pas de la viande. Donc, on vient me dire, écoutez, s'il ressemble à la viande, c'est de la viande. Vous savez, c'est pas tout ce qui ressemble à de la viande, c'est de la viande. C'est-à-dire que Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool et ça a le prix de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Donc c'est ça la question, c'est-à-dire que ressembler, ça n'est que ressembler. Et or aujourd'hui, ce ne sera pas de la viande. Alors en Israël, vous savez, ils font beaucoup de raccourcis. Ils disent, étant donné que le Shulchan Aruch a dit que du pain, s'il est halavi, s'il est au lait, eh ben il est interdit. Donc ça, je m'en interdis, même si je veux le prendre au déjeuner. Je ne pourrais pas prendre un pain au lait, sauf s'il a une forme tout à fait incongrue, une forme bizarre, qui ne ressemble pas à celle du pain. Alors, depuis là, en Israël, on fait des bourrikas, c'est des feuilletés. Lorsque c'est au fromage, c'est rectangulaire, et lorsque c'est triangulaire, et lorsque c'est à la pomme de terre ou au champignon, c'est rectangulaire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on veut absolument qu'il y ait une distinction visuelle. Mais cela reste quelque chose d'arbitraire. C'est-à-dire que, lorsque j'ai grandi, chez mes parents ou chez mes grands-parents, on utilisait des torchons bleu ciel pour la vaisselle de lait et des torchons rouges pour la vaisselle de viande, mais c'est arbitrairement qu'on peut faire, on peut faire le contraire aussi. Donc, dire s'il a une forme X, ça va être de la viande, s'il a une forme Y, ça va être quelque chose de parvenu. Non, ça reste parvenu, mais lorsque la confusion reste trop grande, alors on doit faire part d'une plus grande vigilance.
Est-ce que c'est ça que veut exprimer le concept, un concept de la halakha qui s'appelle Marit Achavim?
Oui, alors, le principe de Marit Achavim, c'est exactement ça. C'est le Marit Achavim, c'est ce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine.
Exactement, voilà.
Mais certainement, lorsque quelqu'un a des habits de moine, je peux supposer qu'il est moine. Donc on vient et on me dit si quelqu'un il est dans un restaurant pas cachère en train de déguster un steak, et ben certainement qu'il est en train de manger pas cachère. Or s'il est venu avec son propre steak cachère et son assiette cachère et qu'il le fait, c'est là qu'on dit maritime. Les gens vont dire mais non mais pas du tout, il a mangé, je l'ai vu à la tour d'argent, prendre un steak. Donc, les gens ne vont pas faire ce qu'on appelle l'imoutsrout, c'est-à-dire d'être indulgent et de dire certainement il fait les choses en bonne et due forme. Ils vont dire non, certainement, il est en train de fauter. Or, vehitem nekim Hashem Israël, on doit être propre devant Dieu, mais également devant les êtres humains, et donc on ne peut pas avoir de comportement qui prête à confusion. Donc, le Shabbat aussi, on ne peut pas rentrer dans un magasin, parce que les gens vont dire, mais il fait ses courses le Shabbat. Non, on doit rester en dehors du magasin, même si on voulait rentrer dans le magasin pour dire quelque chose à la personne qui doit venir dimanche à la synagogue pour réparer quelque chose à la synagogue.
Alors, je voudrais rapporter une phrase de Didier Toubia. Vous savez, c'est le directeur, bien sûr, vous le savez, puisque vous l'avez rencontré, le directeur de À la ferme. Alors, il dit « Nous sommes ravis que davantage de groupes de personnes puissent profiter de nos produits, quelle que soit leur religion, ce qui nous aide à faire progresser notre vision inclusive de la sécurité alimentaire et à puiser dans différentes cultures alimentaires à travers le monde. » Que pensez-vous de cette phrase ?
Moi, je la trouve extraordinaire parce que, pour moi, c'est la conclusion de 25 ans de carrière où, lorsque je vais dans des usines, en fait, on est toujours très, très heureux de la sécurité alimentaire. On est très, très heureux de voir comment est-ce que, grâce au cachère, souvent, on évite des contaminations croisées ou des allergènes, bien qu'on ne soit pas sur le même rail. C'est-à-dire qu'on est sur des roues parallèles. Le halal, c'est pas cachère. Le vegan, c'est pas cachère. Mais lorsqu'on rentre dans une usine vegan, on a beaucoup plus de facilité à vendre le produit cachère. Lorsque on a une communauté qui veut consommer halal, on a beaucoup plus de facilité à faire que notre viande qui est abattue selon les règles de la halakha soit consommée par une population qui est intéressée par un abattage halal. Donc cette viande-là, effectivement, ça va être une viande du consensus, ça va être une viande, je ne sais pas quel est l'avis des véganes, je sais en tous les cas que ceux qui ne prennent pas de viande parce qu'ils croient qu'il y a des réincarnations dans la viande, eux restent encore frileux sur cette nouvelle viande. Je ne sais pas quoi leur dire, puisque je ne m'y connais pas en réincarnation, mais j'ai rencontré des personnes donc, qui sont véganes et qui disaient il y a grande matière à réfléchir et autoriser ce genre de produit.
Oui.
Et les populations qui ont l'habitude, donc qui ont des habitudes alimentaires halal, eh bien sûr, elles pourront aussi profiter de ces produits-là, puisqu'il y a une obligation d'abattage halal uniquement sur une bête vivante, mais pas sur une cellule. Donc, on va permettre à différentes communautés, différents concepts de vie et de consommation de se réunir autour d'un seul même spectre. Oui, c'est juste.
Bien. Alors, quelques petites questions pratiques aussi. Doit-on faire, si on achète, on se projette donc en 2024, où paraît-il on aura cette viande dans tous les supermarchés. Est-ce que si on achète un steak de viande de synthèse, on doit faire le salage, etc., le rituel de la viande?
C'est une très bonne question. Et la réponse, on l'a déjà trouvée dans la première forme donc de viande de synthèse. Donc avant qu'on ait cette viande qui est grasse à ces zygotes, on a déjà parlé de la Gemara de Khoulin, Daf Pezayin Amud Bet, qui dit le sang, c'est uniquement lorsqu'il est rouge, et lorsqu'il n'a pas cette couleur-là, il n'est plus du sang. Et donc, si on amène uniquement le sérum dans cette viande et que Ensuite, on va utiliser un colorant. Alors, je ne sais pas quel colorant on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un colorant betterave?
La betterave, peut-être. Ou
peut-être. Le problème, c'est qu'avec la betterave, on a un problème de que la couleur n'est souvent pas uniforme. Et c'est pourquoi c'est un réel problème, la couleur rouge. On sait très bien que le E124, qui est un colorant azoté, est un colorant qui peut entraîner un comportement de surexcitation chez les enfants.
Oui.
Donc on essaye de l'éviter. Et le E120, sur lequel nous on a un problème, puisque ça vient de la cochenille, qui est d'origine animale. Et là on rejoint un peu ce qu'on a dit au début du cours de la semaine dernière, c'est que la cochenille, au bout de 12 mois, on va la considérer comme Afra-Balma, on va la considérer comme de la poussière.
Oui.
Alors, il y a d'un côté ce qu'on a dit Pircha-Balma, quelque chose qui est un détritus, une sécrétion qui n'est pas valorisée, mais aussi, maintenant, on a ce qu'on appelle quelque chose qui était cachère, pas cachère, mais qui perd son statut de comestible, puisqu'il est trop vieux, il est craquant. Et donc, à un certain moment, on va dire, ben maintenant, c'est considéré comme de la poussière, on pourra l'utiliser. Donc, il y a eu, pendant un siècle, des boucheries cachères qui ont utilisé de la cochenille. Après, aux États-Unis, on est beaucoup plus strict là-dessus, et c'est pourquoi, lorsque M&M's a voulu changer son rouge azoté par du rouge cochenille, le OU a enlevé sa certification sur les M&M en Europe, mais ceux aux États-Unis continuent à avoir la certification. Et c'est très drôle parce que j'étais dernièrement à Saint-Martin où il y a la partie hollandaise et la partie française, et dans les supermarchés il y a donc des produits qui arrivent de France et des produits qui arrivent des États-Unis. Et ben ceux qui arrivaient de France, ils étaient sans le OU, et les paquets sous un autre format qui arrivait des États-Unis, ils avaient le OU. Comme quoi, le commerce international ne s'arrête pas et que cette viande de synthèse, on va la retrouver, je suis sûr, partout.
Oui.
On parle dans 6 mois dans les restaurants, mais vous verrez que ça ira très très vite, ce genre de produit.
Alors, vous avez parlé de ces cochenilles, et là, c'est une petite question subsidiaire. On parle actuellement de trouver dans la farine de la poussière d'insectes.
Oui, et tout à fait. Alors, il s'agit là d'un lobby. Regardez, ces farines d'insectes ne sont pas venues sur la table, ne sont pas venues au Parlement européen par elle-même. Il y a un lobby anti-Shrita, anti-abattage en général, que ce soit pour des questions éthiques ou morales, pour des questions d'abattage, mais aussi pour des questions d'environnement par rapport à la couche d'ozone. Donc ils ont fait une recherche et ils se sont rendus compte que on pouvait très bien avoir sa quantité de protéines journalières grâce à la consommation de poudre d'insectes. Ils se sont dit, ben c'est très bien, on va faire des produits connus, des pâtes, des petits déjeuners, des bars, etc., avec ces insectes. Et comme ça, les gens auront leur apport nutritionnel quotidien en protéines sans avoir besoin de consommer de la viande. Donc il y a une volonté réelle de nous faire consommer ça à la place de la viande. Alors c'est pourquoi Baruch HaShem, en même temps, on a cette viande qui arrive, qui sera une autre solution.
Mm-hmm.
Mais ne croyez pas que ça veut dire que demain, vous allez acheter une baguette dans laquelle il va y avoir de la poudre d'insectes. C'est pas quelque chose de bon marché, donc ils pourront plus vous vendre la baguette au même prix. Donc ils vont pas le faire. Mais il y aura certainement des produits énergisants, des produits qu'on va trouver sur des devantures dans lesquelles il y aura effectivement ces poudres d'insectes. Maintenant, il y a une obligation d'indiquer ces poudres d'insectes, étant donné qu'il y a des gens qui sont allergiques, donc ils sont obligés de l'inscrire. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous vendez quelque chose à l'étalage dans lequel il y a l'obligation à la personne elle-même de s'en signer ce qu'elle achète. Et donc là, on n'est plus dans un contrôle ou une gestion du risque.
Bien, vous avez parlé aussi de certification, et là je voudrais qu'on en dise, enfin il nous reste que 10 minutes pour finir le module, je voudrais qu'on parle de certification, parce que est-ce que dans une boucherie cachère, on trouvera donc bientôt de la viande classique et de la viande de synthèse, et dans ce cas-là, quelles seront les certifications ?
Parfait, alors. Les avancées économiques, je ne les connais pas. Vous savez que le monde, il change, mais il y a quand même beaucoup de réfractaires, beaucoup de changements. Il y a eu souvent des ordonnances européennes pour les agriculteurs ou que ce soit pour les industriels, et les industriels ont continué à fabriquer exactement comme ils avaient l'habitude auparavant. Et quand je pense au chocolat, lorsque il y a quelques années, le Parlement européen a voté une loi autorisant les chocolatiers à mettre de la graisse végétale dans leur chocolat. Les chocolatiers ont dit « c'est pas eux qui vont nous apprendre notre métier ». Et on sait comment ils sont faits avec du cacao, du beurre de cacao et du sucre. Nos chocolats, on n'a pas besoin maintenant de graisse végétale. Donc ça veut dire que c'est pas forcément que demain... chaque boulanger va dire, bah, écoutez, moi je vais faire des petits pains aux insectes. Mmh. D'accord ? Donc, mais aujourd'hui, la loi qui a été déposée, mmh. il y aura certainement des bars, ça c'est sûr, des bars, parce que les bars, c'est quelque chose qui se vend beaucoup.
Oui.
Et c'est rapide.
Oui. Je vous écoute.
Non, je dis c'est rapide à consommer, c'est un encart. Et là, effectivement, ils vont booster ce genre de produits en disant vous allez avoir votre quantité de protéines pour la journée.
Alors, aujourd'hui, pour la viande classique, ben, il y a des contrôles, bien sûr, pour qu'elle soit cachère, etc., avant, pendant l'abattage, etc., etc. Est-ce que lorsque on mettra cette viande sur le marché, il y aura des contrôles, une traçabilité, et des choses qui peuvent rassurer les consommateurs ?
Bien sûr, il va y avoir une obligation de mettre sur chacun des produits exactement l'origine, les allergènes. On sait que tous ces produits à base d'insectes, il va y avoir une réglementation très très stricte au niveau allergène pour donner des informations. Pour la viande, il y aura également toutes les informations parce que c'est possible que des gens ne supporteront pas cette viande. Donc l'information sera très très importante. Il n'y a pas à craindre ça. C'est uniquement ce qui est vendu à l'étalage dans lequel le législateur dit il n'y a aucune obligation d'information parce que la personne prend elle-même le produit que je redoublerai de vigilance.
Très bien. Alors, on sait que pour la viande actuellement, il y a le label Kasher Beit Din, ou alors Kasher Beit Din de Paris, si on est à Paris, etc. Y aura-t-il un label pour cette viande de synthèse ?
Il y aura certainement des labels. Et sûr et certain, tous les grands organismes de cacheroute vont labelliser chacune des usines qui fera la demande. Et je pense que la demande sera faite par tout un chacun parce que ils savent qu'ils ont un atout en plus, le fait d'être cachés.
Rav Wolf, on est quasiment à la fin de l'émission. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? En 2 ou 3 minutes.
J'aurais voulu dire que c'est extraordinaire de voir ces changements, et c'est un réel challenge, et que nous-mêmes, nous devons prendre la balle au bond pour justement permettre de vivre dans un monde meilleur, dans un environnement où on pourra protéger la nature et quand même consommer des produits qui seront de haute qualité et qui donneront des nouveaux challenges au niveau halarique. Alors, ce n'est pas seulement pour la viande, ça sera certainement pour vous. Bien d'autres éléments, puisque j'étais cette semaine dans une usine de miel et ils ont une machine extraordinaire dans laquelle ils arrivent à faire passer l'ensemble des molécules de glucose, fructose et dextrose qui se trouvent au sein du miel et dans laquelle il y a de manière obligatoire du pollen amené par l'abeille. Et donc, si on a fait un mélange frauduleux, on remarque la fraude. Or, en Israël, il y a déjà une start-up qui arrive à polliniser le fructose de manière industrielle.
Bien, bah écoutez, c'est le progrès. C'est, je crois qu'on peut appeler ça le progrès, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ravolf, pour votre intervention qui nous a appris énormément de choses et qui nous a un petit peu rassurés sur l'avenir de cette viande de synthèse. Et je voudrais aussi terminer en remerciant le rabbin de notre synagogue de Plan de Dallo, c'est Jonathan Choucron, car c'est grâce à lui que j'ai pu prendre contact avec vous. Merci beaucoup, Ravolf, pour toute cette information. Au revoir.
Je vous remercie. Je remercie le rabbin et je remercie l'ensemble des auditeurs de nous avoir écoutés.
Merci. Bonne au revoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.